langue dans les livres la plus traduite dans le monde, l'anglais, plus de la moitié des livres. L'allemand et le français se maintiennent autour de 10%. Le russe chute depuis la chute du mur. Dans la dernière partie de la Grande Table, l'actualité des idées avec Antoine Mercier, pourquoi faut-il voir dans la traduction un acte de résistance? Avec la philologue, philosophe et traductrice Barbara Cassin, spécialiste de la rhétorique et de la modernité, directrice de recherche au CNRS, pour son essai Éloge de la traduction compliquée, l'universel, qui vient de paraître chez Fayard. Un journal de bord de ses rencontres de philosophes avec la traduction. Pour en faire l'éloge, elle passe par les chemins des chemins, de traverse le grec, les humanités, entrée en résistance contre le global, cet avatar contemporain de l'universel, un livre plaidoyer pour les cultures et la singularité des langues. Un essai et des représentations. Dans quelques jours s'ouvrira également au MUCEM à Marseille, une exposition que Barbara Cassin a conçue, Après Babel, traduire, où elle rappelle que le passage d'une langue à l'autre, c'est aussi la transmission des savoirs et la transmission des pouvoirs de la Grèce à Rome, de Rome au monde arabe. Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
Et dire bonjour et pas salam, shalom, hello, guten tag, c'est déjà un choix, peut-être pas politique, mais en tout cas le choix de la langue n'est pas anodin.
Oui, le choix de la langue, c'est aussi, d'une certaine manière, rentrer dans une vision du monde. Quand on disait en grec ancien « kairé », pour dire bonjour, on disait « réjouis-toi, jouis ». Quand on disait « valet » en latin, on disait « porte-toi bien ». C'est pas tout à fait. Et quand on dit « salam » ou « shalom », on dit « va en paix ». C'est pas tout à fait la même chose que de dire « good morning
».
Bonjour.
Bonjour. Une question préalable, Barbara Cassin, qu'on pose à tous nos invités. Comment allons-nous? Et peut-être on peut vous la poser sous le prisme de la langue, justement, à partir de l'état de notre langue, le français. Comment allons-nous pour vous, Barbara Cassin?
J'aurais envie de répondre, le pire n'est pas toujours sûr. Enfin, cette réponse m'est aussi inspirée par ce que je viens d'entendre. Le pire n'est pas toujours sûr. Il n'est pas toujours sûr qu'un enfant ne soit pas un enfant, par exemple. Donc il n'est pas toujours sûr qu'un enfant d'immigré clandestin n'ait pas à aller à l'école tout de suite et n'ait pas à parler sa langue en même temps qu'il apprend le français. Il n'est pas toujours sûr qu'on soit obligé de dire à tous « asseyez-vous et taisez-vous » et maintenant parlez français. J'imagine qu'une école où on dirait « et ça existe aujourd'hui et chez nous aussi, et chez nous maintenant », une école où on dirait aux enfants qui sont là « quelle langue parlez-vous? Combien de langues parlez-vous ?» Moi, j'ai souvenir d'une intervention, petite conférence ça s'appelle, que j'ai faite à Montreuil, avec des jeunes entre 8 et 16 ans, et où j'ai demandé, peut-être qu'il y en a parmi vous qui parlent plus d'une langue, et toutes les mains se sont levées. Ben, je trouve que c'est une expérience intéressante et réelle.
Encore faut-il bien les parler, ces langues que l'on connaît.
Oui.
Vous insistez précisément sur la connaissance de la langue, la manière dont on est impliqué dedans, dont on peut y vivre aussi.
Dont on peut y vivre et en jouer, dont on peut la fabriquer au fur et à mesure qu'on y demeure. Oui, bien sûr, et ça la traduction nous l'apprend. C'est-à-dire que ce que je crois, c'est qu'on voit bien une langue depuis une autre langue. Donc c'est pour ça que je privilégie la traduction et le fait d'en parler plus d'une. Alors maintenant, on n'y parle pas
vous
forcément de la même
manière.
Vous
pouvez nous donner un exemple, par exemple, de ce phénomène que vous décrivez, comment on voit mieux une langue à partir d'une autre?
Je dirais que je prendrais comme contre-exemple les Grecs anciens. Eux, ils pensaient, au fond, en termes de monolinguisme. Ils étaient fièrement monolingues. C'est-à-dire que pour eux, le logos, ça voulait dire à la fois, et c'est magistralement traduit par les latins, et c'est depuis les latins qu'on le voit, ça voulait dire à la fois ratio, raison, et oratio et discours. Et c'était le même mot qui désignait la raison, le discours, la langue et la langue grecque. La langue et naturellement la langue qu'ils parlaient. Et les autres, c'était des barbares, blablabla, sur l'onomatopée, comme berbère hein, ou comme Babel. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand on n'entend qu'il y a plusieurs langues, que c'est de ça qu'on parle. C'est Humboldt qui dit « Moi, j'ai jamais rencontré le langage, je n'ai rencontré que des langues. » Ben, moi aussi.
Oui, également dans cet éloge, que vous faites de la traduction, Barbara Cassin, vous ne parlez pas de langage, vous parlez bien de la langue, ou plutôt des langues. C'est un préjugé qui perdure aujourd'hui, hein. Vous l'évoquez chez les anciens Grecs déjà, celui qui ne parle pas comme moi est un barbare. Aujourd'hui encore, imposer sa langue, c'est quand même un mode de domination. La langue est un outil de domination dans le monde.
Oui.
On le voit que trop bien aujourd'hui avec l'anglais ou son avatar qui est le globish, et qui permettrait une communication global, mais qui est quand même très emprunt et très inspiré par la langue anglaise.
Oui, le globish, ce que je lui reproche, c'est pas tant d'être anglais. Ça va. Après tout, la koiné était grecque, le français a régné dans les langues comme langue diplomatique pendant des siècles, le latin a ô combien régné. Qu'une langue se rapproche, qu'une langue, disons, de véhicule, qu'une langue véhiculaire se rapproche et soit née de une langue de culture, c'est normal et c'est courant. Mais le problème est quand cette langue oblitère les autres. Et par exemple, à Rome, on parlait trois langues. On parlait le latin comme langue politique, on parlait le grec comme langue de culture, et chacun parlait sa langue de naissance. Aujourd'hui, dans les institutions européennes, on est censé parler toutes les langues d'Europe, mais en fait, la seule langue qu'on parle, c'est la langue d'expertise, le globish.
Qui n'a rien à voir avec l'anglais, vous dites.
Non, qui n'a pas grand-chose à voir
avec
l'anglais. Qui a à voir avec une langue qui permet de classer, de déclasser, de cocher des croix. Et aucun expert que j'ai rencontré, très peu d'experts que j'ai rencontrés, parle un anglais correct. Les dossiers que vous faites pour obtenir des financements sont des dossiers qui sont faits dans un anglais complètement abâtardi et qui n'a plus rien de la langue anglaise en tant que langue, qui est simplement une manière de communiquer.
Alors comment vous faites pour les remplir, ces fameux dossiers? J'imagine que vous avez peut-être à le faire aussi.
Ben, je pleure. Je pleure et je le fais faire par des firmes qui gagnent beaucoup d'argent et qui, de temps en temps, nous permettent d'en gagner aussi. Mais si je le fais remplir par des Anglais, c'est une catastrophe.
Alors vous avez quelque chose à lui reprocher, à l'anglais justement, ou pas?
À l'anglais
en
tant que langue?
J'ai rien à reprocher au globish et à l'anglais.
Non, c'est au globish.
Je n'ai rien à reprocher à l'anglais.
Donc je renverse la question sur l'anglais. Ah non, c'est au globish que vous reprochez certaines choses, mais pas à l'anglais.
Oui, bon. L'anglais est une langue magnifique, une langue de culture avec des auteurs et des œuvres. Et puis, il se trouve que c'est une langue d'empire, et il se trouve que le fait qu'elle soit une langue d'empire en a fait une langue d'empire, j'allais dire pour la petite finance, c'est-à-dire qui nous permet d'obtenir, la seule langue qui nous permet d'obtenir des subventions.
Donc l'anglais est une langue magnifique, mais, non, il n'y a pas de mais.
Si, mais elle est devenue du globish de temps en temps, et ça c'est terrible.
Et c'est la langue de l'empire. Les langues véhiculent les cultures, Barbara Cassin, différentes approches du monde, vous l'évoquiez, mais elles peuvent aussi faire barrage à la communication, elles peuvent produire de l'incompréhension. Trop de langues, est-ce que c'est aussi un peu une malédiction?
Vous parliez de l'exposition que je fais au MUCEM, c'est la première question qu'on pose, Babel, malédiction ou chance? Alors évidemment, j'ai envie qu'on conclue chance. Et je dirais qu'on peut conclure chance parce qu'après Babel, il y a traduire. C'est d'ailleurs le titre de l'exposition après Babel, virgule, traduire. C'est bizarre, une exposition qui a comme ça un titre syntaxisé. Mais bon, le verbe traduire me paraît très important. C'est une action. Et c'est une action qui met en rapport. Donc pour moi, l'intérêt de la traduction, et c'est l'une des choses que je tente de montrer dans cette exposition, c'est que la traduction est un savoir-faire avec les différences. Qu'il s'agisse de traduire de près un texte, comme par exemple le texte de Poe, traduit par Baudelaire, Mallarmé, Artaud, Pessoa, c'est un savoir-faire avec les différences. Mais aussi l'articulation entre des gens qui ne parlent pas la même langue. Voilà un savoir-faire avec les différences.
Est-ce que tout le monde sait bien ce qu'est Babel?
Oui, la destruction de cette tour de Babel,
après Babel, traduire.
La destruction de cette tour qui était censée aller au ciel et qui était le symbole ensuite de la langue unique qui a été dispersée dans le monde en 70 langages. Bref, après la destruction de cette fameuse tour, finalement, vous disiez, c'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, car sinon nous serions restés dans quoi?
Nous serions restés dans un monolinguisme dont personne ne sait quel il est, c'est-à-dire une langue adamique, une langue de paradis.
Oui, on peut imaginer que c'était une langue, une très belle langue, peut-être.
Une très belle langue.
Simplement, le fait que tout le monde la parle, qu'il n'y en ait pas d'autres, ça la rendait enfermée sur elle-même.
C'est même pas ça, c'est qu'elle n'existe pas. On ne l'a jamais non plus rencontrée, celle-là. Et quand on l'a rencontrée, elle a été appropriée. C'était une langue appropriée qui avait l'air d'être la seule. Je veux dire, par exemple, je reprends le logos. Eh bien, on pourrait croire que le logos, c'était la langue. Autrement dit, si j'ai intitulé mon livre « Éloge de la traduction, compliquer l'universel », c'est que je trouve que l'une des grandes pathologies de l'universel, c'est d'exclure, c'est-à-dire de se croire seul. Alors que l'universel, à mon avis, et les universels, et je mets un S que je vois, ce sont toujours un universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un.
Mais alors, il y a une contradiction quand même dans les termes, évidemment, de parler d'universel qui serait partiel.
Je ne vois que celle-là. Je ne vois que ça. L'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Alors, on peut dire qu'on fait les mêmes mathématiques que Dieu. Ça, peut-être. Et d'ailleurs, Leibniz a tenté de faire une caractéristique universelle qui était, disons, la réduction, ce qu'il appelait aux identiques, de toutes les pensées du monde entier, de tous les hommes. Bon, il n'a jamais réussi, n'est-ce pas? Et Frege a tenté aussi, et ça n'a jamais... Je pense que ça, c'est véritablement...
D'accord, mais alors qu'est-ce qui reste de l'universel avec, après que vous l'avez comme ça réparti en divers morceaux de langues?
Mais il n'en reste rien.
Ah bon?
L'universel, il faut le compliquer.
Oui. Mais alors quand vous dites compliquer l'universel, vous entendez quoi par cela? C'est-à-dire, c'est cette idée de multiplier les cultures, de favoriser le multiculturalisme pour ne pas laisser trop de place à l'uniformisation?
L'uniformisation en tant que telle ne me dérange que quand elle barre toute diversité, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas d'utiliser le globish pour aller demander un café à Tamanrasset ou à Pékin. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une langue de communication, une lingua franca. Il y a toujours eu, pas grave. Ce qui est grave, c'est quand les autres langues, les vraies langues qui s'appuient sur des cultures ou qui sont liées à des cultures, à des auteurs, à des
combien
textes...
Combien ça fait de langues finalement, ça, tel que vous le définissez?
Énorme. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui tombent.
En dizaines, en centaines
En centaines.
Oui, centaines.
Oui. Et bien, ce qui devient grave, c'est quand ces langues sont des dialectes à parler chez soi. Et c'est tout. C'est quand il y a globish plus dialecte. Ça, c'est dangereux. C'est pas globish. L'anglais n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est globish plus dialecte. Et dialecte, compter le français parmi les dialectes. Et compter l'anglais normal parmi les dialectes.
Une question peut-être plus personnelle. On sait que vous avez fait un compagnonnage avec Alain Badiou, une complicité depuis longtemps. Et lui, il défend l'universel platonicien. Et vous dites non, moi je suis pas d'accord. Mais comment vous se passe cette discussion entre
c'est
vous?
C'est pour ça qu'ils ne se parlent plus aujourd'hui.
Voilà. Mais comment on se parle pas? On se parle tout à fait.
Bon. En quelle langue?
Eh bien,
celle de l'universel.
En français.
Voilà.
Et dans un français assez beau. Et
comment on peut être, j'allais dire, aussi proche de quelqu'un qui pense aussi différemment, fondamentalement, sur cette question essentielle, intellectuellement évidemment?
Je ne suis pas sûre qu'on pense. Je crois que je suis proche d'Alain Badiou et je crois qu'il est proche de moi parce qu'on se respecte. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il pense et je crois qu'il a un peu d'intérêt pour ce que je pense. Donc ça, c'est marrant, si vous voulez. Déjà, c'est drôle. Bon, et je me suis toujours mieux entendue avec des gens qui ne me ressemblaient pas. Je n'ai pas énormément d'amis philologues. C'est assez dur à supporter.
Il parle la même langue que vous?
Oui, peut-être. Ou alors, vous savez, ça c'était autre chose, mais moi j'ai toujours été assez marginale par rapport aux institutions centrales, on va dire. Voilà.
En exergue de l'exposition qui va s'ouvrir bientôt le 14 au MUCEM et dont vous êtes la commissaire Barbara Cassin, il y a ces mots de Umberto Eco dont on souhaiterait que vous nous les expliquiez. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Venons-en en effet à la traduction. En quoi la traduction peut-elle faire langue commune?
La traduction fait langue commune parce qu'elle se situe entre les langues. Et au fond, c'est comme si vous me demandiez de vous parler du cerveau. Et ben, en effet, il y a des synapses et pas seulement des cellules. Enfin, je veux dire, il n'y a pas simplement des entités, il y a du entre. C'est ce entre qui compte. Et c'est cela que dit Umberto Eco. La langue de l'Europe, ça n'est ni l'anglais, ni le français, ni toutes ces langues côte à côte. C'est la traduction entre les langues. Et je pense que... Enfin, je viens d'imaginer que nous sommes en train d'écrire les phrases au fronton des cimaises de cette exposition. Et comme beaucoup de cette exposition parle des trajets d'œuvres, par exemple, de la translation Studio Room, qui est le passage des savoirs du grec au latin, du latin à l'arabe, etc., qui est en même temps un rapport de pouvoir, un transport de pouvoir. Eh bien, donc, nous suivons des œuvres comme cela, et il y a très peu d'Europe seule, ça va très loin. Hein, et ça sort de l'Europe, évidemment. Donc j'ai pensé mettre comme sur une cimaise la langue du monde, c'est la traduction, et d'appeler ça pseudo Umberto Eco.
Et vous dites que ce entre, finalement, est quelque part un et. C'est ce qui fait, c'est ce qui joint, c'est ce qui fait liaison aussi entre les langues et entre les cultures.
Oui, voilà, vous posiez la question comment allons-nous ? Ben, c'est ma manière de dire nous.
Antoine, merci.
Oui, parce que vous êtes. Ça, c'est la philologue qui parle. Est-ce que cette conception-là, j'imagine, un déploiement philosophique aussi, c'est-à-dire que l'essence, la réalité des personnes, de ce que nous sommes, c'est toujours l'entre-deux de quelque chose ?
Oui, Anna Arendt appelle ça la chancelante équivocité du monde. Je trouve ça magnifique. J'aime mieux un monde qui est en équivocité chancelante, si vous voulez, qu'un monde qui est complètement assuré. Et pour moi, l'universel de Badiou, on en parlait tout à l'heure, eh bien, ça risque d'être pas assez chancelant.
Grâce à vous, ça l'est un petit peu plus.
Mais c'est parce que je ne le comprends pas assez. C'est-à-dire que je pense que sa manière d'articuler l'universel et le multiple, je ne suis pas sûre de savoir exactement comment ça se passe.
Vous parliez d'Anna Arendt, il y a d'autres philosophes auxquels vous rattachez par rapport à cette conception.
Mais oui, Humboldt, par exemple. Qui, je le citais, en travestissant un peu sa phrase, je n'ai jamais rencontré le langage, je n'ai rencontré que des langues. Quand il dit que chaque langue est une vision du monde, mais que les visions du monde s'articulent. Et c'est, au fond, le monde commun est à construire. C'est tout ce que ça dit, traduction. Ça dit, construisons-le. Ça n'est pas un prédonné, et ça n'est surtout pas un prédonné appropriable, plus d'une langue. Une langue, ça n'appartient pas. Voilà deux phrases de Derrida que je pourrais très bien faire mienne, par exemple.
Et on va vous faire entendre une autre voix, celle de Julia Kristeva, autre philologue, psychanalyste. C'était lors d'une conférence à la Bibliothèque nationale de France. Elle aussi fait l'éloge de la traduction.
Si nous n'étions pas tous des traducteurs, si nous ne mettions pas sans cesse à vif l'étrangeté de notre vie intime, par une constante et délicate interrogation des codes stéréotypés qu'on appelle langue nationale, pour les transposer à nouveau dans d'autres signes. Aurions-nous une vie psychique ? Serions-nous des êtres vivants ? Je prétends que s'étranger à nous-mêmes et se faire le passeur de cette étrangeté continuellement retrouvée, n'est-ce pas ainsi que nous combattons non seulement les exclusions, mais aussi nos psychoses latentes, nos dépressions latentes, et réussissons là où la maladie psychique, l'autisme, la psychose échouent. C'est-à-dire, nous réussissons à nommer le temps sensible, l'indicible qui nous angoisse. C'est vous dire qu'à mon avis, parler une autre langue, ausculter les différences et les affinités entre les langues, les traduire, c'est tout simplement la condition minimale et première pour être en vie.
Barbara Cassin, c'est intéressant ce pont que fait Julia Kristeva entre la traduction et la vie psychique, et traduire nos pensées, mettre en mots finalement ces indicibles. Hein. C'est aussi ça le sens et la valeur de la traduction. En plus de tous ceux que vous ajoutez déjà dans cet ouvrage, à savoir faire quand même civilisation, on va en parler, la traduction comme pilier de nos civilisations et comme modèle de citoyenneté.
Oui, je suis très intéressée par ce que dit Julia Kristeva et nous sommes, je crois, assez proches. Le rapport à la psychanalyse et donc au dedans et à l'étrangeté du dedans et au fait que cette étrangeté, c'est un étrangement à soi-même. Là, je suis infiniment d'accord. Mais j'aurais envie de citer cette phrase de Lacan par rapport à la traduction. Et Lacan dit, dans l'étourdi, il parle des langues de l'inconscient et il dit « Une langue entre autres, avec un S à autre, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. » L'intégrale des équivoques.
Ça signifie quoi ?
Ça veut dire que c'est... Alors, peut-être pour prendre un premier exemple simple. Quand vous rêvez, vous savez bien que les mots s'arrangent, il s'agit du signifiant et pas du signifié, et que les signifiants s'arrangent comme dans un rébus. Bon, eh bien, déjà, un rébus, sel, âme, our, c'est l'amour. Bon, vous voyez bien que là, ça bouge, et que ça bouge étrangement, et que ça bouge dans l'équivoque. Eh bien, imaginez que c'est comme ça d'une langue à l'autre. C'est comme ça dans les langues. Et l'intérêt du mot logos, par exemple, c'est que pour nous, il est d'une équivoque terrible. Lorsque on sait que ça veut dire A sur B égale C sur D, toute mise en relation, toute proportion, et puis langage, et puis phrase, et puis mot, et puis démonstration, et puis raison. Bon, voilà. Et bien de là, vous voyez un peu de grec. Et vous le voyez depuis ailleurs, depuis le latin, depuis le français, etc. Donc une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. Ça, c'est génial, à mon avis. Et c'est le rapport immédiat entre la psychanalyse et, disons, la traduction. Et évidemment, vous mettez en jeu votre dedans, ainsi.
Est-ce que c'est une traduction, c'est aussi une interprétation ?
Bien sûr. Je dirais que la traduction, c'est la pointe ultime de l'interprétation. Quand vous travaillez un texte et que vous finissez par le traduire, vous êtes en regret de toutes les traductions que vous ne donnez pas et vous en avez choisi une. Autrement dit, la traduction, c'est le fait d'un relativisme conséquent. Il y a un meilleur pour. C'est mieux de traduire comme ça cette fois-ci. Mais il y a plus d'une bonne traduction, beaucoup plus.
C'est-à-dire qu'il y a des bonnes traductions et des mauvaises traductions. Qu'est-ce qui les différencie ?
Il y a probablement des traductions mauvaises, impossibles, par rapport à une langue. C'est-à-dire des traductions qui ne tiennent pas compte de ce qu'autorise une langue. Et il faut savoir qu'une langue évolue et autorise des choses différentes. Donc même ça, c'est un peu mouvant. Mais néanmoins, si je vous dis que je traduis logos par serpent à sonnette, non, il y a un problème.
Hein ? Mais pas de mauvaise traduction dans l'interprétation. Là, c'est pas possible. Vous évoquiez l'interprétation qu'on peut en donner.
Non, mais voyez, par exemple, dans cette exposition, juste pour vous faire sentir quelque chose là, le faire toucher du doigt ou de l'œil dans l'exposition, j'explore trois équivoques de la Bible. Bon, trois équivoques, pas de la Bible toute seule, mais de la Bible traduite. Donc, on dit Moïse est Karan. Est-ce que ça veut dire qu'il est cornu ou qu'il est rayonnant ? Bon. Et on voit Michel-Ange ou Chagall ne font pas le même Moïse. Et Ève.
Ah, mais qu'il faut les préciser, Michel-Ange fait des cornes. Et
oui,
Chagall
Michel-Ange
n'en fait
des cornes, Chagall fait des rayons.
Fait des rayons.
Oui. Prenons Ève.
Est-ce qu'elle est sortie de la côte ?
Voilà. Et ça, elle est sortie de la côte ou à côté d'Adam ? Là aussi, c'est quand même pas le même monde qui s'ouvre. Et bon, les deux sont possibles, mais c'est à vous de choisir. Et bon, pareil, l'arbre de la connaissance, c'est un pommier ? Oh, c'est juste parce que maloum, ça c'est une erreur de traduction. Maloum avec un a long ou avec un a court, l'un veut dire pomme, l'autre veut dire mal. Donc on a fait un pommier. Mais bien entendu, on peut aussi faire un figuier, comme quand on est Blake et qu'on a compris la chose, ou on peut faire un champignon hallucinogène, quand on va dans la petite chapelle de Plaincourt.
Et alors justement, Barbara Cassin, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire, à votre connaissance, des contresens ? Est-ce qu'il y a des contresens historiques en matière de traduction qui ont vraiment changé la face du monde ?
Oui, oui. Et en philosophie, on en explore un certain nombre qui... Par exemple, dans le dictionnaire des intraduisibles que j'ai fait, enfin dans le vocabulaire européen des philosophies, que nous avons fait à 150, chacun de nous a apporté sa dose de, disons, de suspicion et de contresens. Mais il y a des immenses contresens. Qu'est-ce que c'est que de traduire « oussia » ? Ça, ce n'est pas un contresens, c'est une interprétation qui induit. ousia, le mot qui est fait sur le verbe être en grec, si on se met à le traduire par substantia, qui veut dire se tenir dessous, c'est quand même pas pareil que si on le traduit par essence, qui est le mot sur être, et c'est. Bon. Et il se passe des choses. Mais prenons des exemples beaucoup plus triviaux. Triviaux et gravissimes. Hein. Prenons la résolution 242 des Nations Unies. Celle pour après la guerre des six jours, le retrait.
Of occupied territories.
Voilà. Vous dessinez, vous dites qu'il y a un retrait des territoires occupés, et vous dessinez une certaine carte de géographie, ou vous dites of occupied territories, et vous en dessinez une autre. Ça, on le montre par exemple dans l'exposition.
Et là, on arrive, on bute sur les limites de la traduction, finalement, avec ces intraduisibles.
Les intraduisibles, vous savez, ça n'est pas ce qu'on ne traduit pas, c'est ce qu'on ne cesse pas de retraduire. Alors là, pour « occupied territories » et « des territoires occupés », c'est autre chose. Hein, il y a vraiment une version...
Ouais, ça a permis à la résolution d'être votée aussi.
Hein. Ça a permis à la résolution d'être votée et ça a permis bien d'autres choses.
Bon, dans son application.
Ça se passe ? Parce que vous nous dites une langue, il y a une vision du monde derrière, soit, mais il y a la langue que l'on traduit avec sa vision du monde, et puis il y a le traducteur qui a sa propre vision du monde. Comment ça se passe entre ces deux visions du monde dans le travail concret de la traduction ?
Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement quand je dis déjà une langue, c'est une vision du monde. Et je sais encore moins ce que ça veut dire quand on parle de la vision du monde d'un traducteur, si vous voulez.
Parce qu'il a une langue aussi, malgré tout, un univers
linguistique. Oui, il a une langue, mais il n'est pas confiné dans sa langue. C'est ça son rôle, justement. Son rôle est de jouer entre. Donc, et de comprendre un peu à quel moment sa vision du monde intervient. Pour autant qu'on puisse dire ça comme ça. Hein. Et donc, faire... ce que j'appelle du relativisme conséquent. C'est-à-dire, penser que là, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, ça en dit plus. Et voilà, c'est-à-dire que
ça
moi...
Ça en dit plus aussi à ceux qui vont lire
absolument.
Ce texte dans cette langue.
Absolument.
Donc, dans cette langue-là, ça en dit plus.
Ça en dit plus. Oui. Ça en dit plus comme ça.
Une sorte d'hybridation.
À ce moment-là. Et ça fait jouer la langue plus. Bon. Si vous voulez, je proposerais... Et c'est ça ma notion de relativisme conséquent, et elle est infiniment discutable, mais je proposerais qu'on substitue à vrai-faux un plus vrai pour, et ce plus vrai pour est un meilleur pour.
Alors, vous repreniez quand même, peut-être, pour que nous expliquiez cette phrase très condensée.
Oui.
Eh bien, premier terme,
une traduction n'est pas... Il peut y avoir des traductions fausses, d'accord. Mais par ailleurs... Je pense qu'il n'y a pas une traduction vraie, il y a des traductions plus vraies, meilleures. Et meilleures pour dire quelque chose qu'il faut dire et que ce texte dit, que le texte que vous traduisez dit, et qu'il faut dire à ce moment-là, qu'il faut dire maintenant, ici et maintenant, quand vous êtes, vous, traducteur de ce texte, aujourd'hui. Voilà.
La philosophe Barbara Cassin est notre invitée pour Éloge de la traduction compliquée l'universel qui vient de paraître chez Fayard. Dans le toujours plus meilleur, Barbara Cassin, il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va bientôt pouvoir remplacer les traducteurs par des outils de traduction automatique, des algorithmes qui permettront peut-être d'approcher enfin la perfection avec des traductions ultra précises, des algorithmes issus de notre réflexion. On y vient, ça c'est un miracle.
C'est la provocation, là.
Non, mais personne ne soutient ça, même pas les algorithmeurs, si j'ose dire. C'est très, très intéressant de voir où on en est et de regarder de près ce qui se passe avec la traduction automatique. Elle a changé. C'est-à-dire que, vous savez, mes premières expériences de traduction automatique, c'est dans le livre que j'ai écrit sur Google. J'avais mis dans Google Translate « Et Dieu créa l'homme à son image ». Puis je l'avais traduit en allemand avec Google Translate. J'avais traduit la traduction en français, puis le français en allemand et l'allemand en français. Au bout de deux fois, ça s'était complètement stabilisé. Ça bougeait un peu, puis ça s'était stabilisé au bout de deux opérations.
Sur quoi ? Qu'est-ce qui restait ?
On obtenait « Et l'homme créa Dieu à son image ». C'était pas mal. Mais je veux dire, bon, ça c'était une chose qui témoignait de la difficulté de régler la syntaxe et l'ordre des mots dans une traduction automatique. On peut dire que maintenant, si vous rentrez cette phrase, vous l'obtenez bien, tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les transformations qui ont été opérées ? On est passé de l'idée qu'on traduisait via une langue pivot, et en l'occurrence c'était l'anglais, on mettait tout, on traduisait tout en anglais, et pour passer du français au chinois, on passait par l'anglais, bon, c'est complètement abandonné, et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'une quantité de contexte à une quantité de contexte. Et là, on trouve, on a beaucoup affiné, c'est très intéressant ce qui se passe, et c'est très intéressant ce qui échappe encore. Et c'est autre chose qui devient difficile.
Vous n'avez pas l'air contre.
Mais non, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on essaye. Je suis absolument contre le fait qu'on dise « c'est ça traduire » ou « ça n'est que ça traduire ». Et de toute façon, vous pouvez toujours essayer. Dans le... Par exemple, j'ai pris Edgar Poe dans l'exposition. J'ai pris Le Corbeau. Vous savez que Le Corbeau a été traduit par Baudelaire, Mallarmé, Artaud, Pessoa. Artaud, non, il a traduit du Poe, mais bon... Pas vraiment la première strophe du Corbeau. Mais si on prend la traduction de Poe et qu'on la met dans Google Translate, on obtient un truc absolument invraisemblablement incohérent. Oui. Assez poétique d'ailleurs. Assez fou, mais complètement terrible. Et si vous mettez Pessoa, c'est pareil. Vous mettez la traduction que Pessoa fait de Poe, vous obtenez un truc délirant. Bon. En revanche, quand vous mettez la traduction que Baudelaire a fait de Poe, dans Google Translate et que vous voulez le retraduire en anglais, ben c'est assez beau. C'est parce que ça a déjà été fait.
Barbara Cassin, vous insistez beaucoup dans votre éloge de la traduction sur la dimension politique de la traduction. Il est clair, en tout cas, je vous cite, qu'existe à chaque fois une dimension politique singulière, indissociable de la dimension de recherche philosophique sur la langue et la traduction. Les routes de la traduction sont des routes de pouvoir pour vous aujourd'hui. Quelle route sommes-nous en train de prendre en la matière? Il y a aujourd'hui un grand marché de la traduction européen, soutenu notamment par l'UNESCO. Quelles sont les grandes tendances? Quels sont les signes d'ouverture en matière de traduction? Comment investit-on politiquement aujourd'hui dans la traduction?
Mais qui est le « on » Je veux dire, en France, on fait très attention. On est très aidé par le CNL, le Centre National du Livre, pour qu'on puisse traduire et faire traduire des langues étrangères vers le français et faire traduire du français vers les langues étrangères. Et on a beaucoup de programmes d'aide très intéressants, par exemple pour des traductions vers l'arabe ou de l'arabe vers le français. Donc on agit. Et ça, c'est une très grande chose. Évidemment, quand on est aux États-Unis ou en Angleterre, on n'agit pas du tout de la même manière. On laisse les gens traduire vers vous, puis c'est tout. Et donc, évidemment, il y a une immense majorité de textes qui sont traduits vers l'anglais. Et moi, je m'insurge contre le fait qu'au CNRS, par exemple, on m'a demandé à un moment donné d'écrire en anglais. C'est ça le globiche, c'est qu'on demande à une philosophe française d'écrire comme elle peut en anglais pour que ça soit répertorié et que dans le classement de Shanghai, le CNRS ou telle institution monte un peu.
Et c'est en cela, Barbara Cassin, que traduire peut être pour vous aujourd'hui encore un acte de résistance.
Oui, c'est un acte de résistance de plus d'une manière. Je dirais que les humanités, déjà, c'est... Aujourd'hui, ça s'est passé de la réaction à la résistance, pour dire très vite. Mais vous voyez bien, quand on entend que les enfants d'immigrés ne devraient peut-être pas aller tout de suite à l'école et que... Hein,
bon, c'était dans le journal d'Antoine.
Dans le journal de tout à l'heure. Moi, il me paraît au contraire complètement essentiel de faire en sorte que chaque langue ait sa présence et qu'on puisse parler plus d'une langue.
Un grand merci Barbara Cassin. L'exposition dont vous êtes la commissaire commencera tout bientôt le 14 décembre au Mucem à Marseille, après Babel traduire, et elle durera jusqu'au printemps prochain, fin mars. Hein, de mémoire. Merci beaucoup. Éloge de la traduction vient de paraître chez Fayard. Aux manettes, ce vendredi, Perret Legras avec Théo Gomard. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie, avec Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc. La grande table se tweet et se like en français. Et ce podcast, toujours en français, dès maintenant sur franceculture.fr. Lundi, nous recevrons Gérard Manset, il voyage en solitaire, vous savez, et Edgar Morin dans la deuxième partie de l'émission, le sociologue, philosophe à la pensée complexe qui vient de faire paraître un essai sur l'esthétique. Très bel après-midi sur France Culture.